France Inter.
À vous qui nous écoutez en podcast, est-ce que ça vous dirait pour l'apéro de vous accouder au bar avec Benjamin Biolay ? On a plein de choses encore à apprendre sur lui. Hein. Attention, il arrive ! Je le vois, je l'ai reconnu. Il a une doudoune bleue.
En mode descriptif, bonjour.
Bonjour Benjamin Biolay.
Bonjour, joli foulard, ouais, ça va bien.
Bienvenue, ça va ?
Très bien.
Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes le vrai ?
Rien.
Rien ?
J'ai même pas mon passeport, j'ai rien.
C'est pas votre passeport. Venez vous installer.
Charlie Vaninacker. Bistroscopie sur France Inter.
Benjamin Biolay, on va passer 35 minutes ensemble. Est-ce que vous croyez qu'on va trouver un sujet de conversation ?
En 35 minutes ? Mmh. Oui, sans doute.
Si je vous croisais dans un bar comme ça, et je devais vous aborder, je dirais que je suis venue vous voir au Théâtre Marigny pour le début de votre tournée acoustique en concert. Vous faites une tournée des théâtres, il y a un décor, on est chez vous.
Je vous demanderai une preuve, je vous demanderai le
le ticket.
Oui, quand même.
j'ai vu, on est chez vous, un fauteuil, un tapis, un bureau avec des chansons, des amis musiciens, excellents musiciens qui vous entourent. C'est cosy, vous êtes à l'aise, vous chantez assis, debout, vous vous mouvez avec aisance, l'album est bleu. Et alors moi j'ai eu un flash en vous voyant, je me suis rappelé, je suis arrivée à Paris moi, en 2002,
ah oui,
je me suis dit je vais faire un premier concert. Je suis allée voir Alain Souchon au Casino de Paris. Et
ah
en
oui,
première partie, il a présenté un chanteur chic qui s'appelle Benjamin Biolay. Et là, je vous revois. Je vois un jeune homme coincé dans son costume gris, raide comme un piquet, et qui chantait l'automne toute l'année.
Ouais.
Et là, quand je vous ai vu à Marigny, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Bien, pas mal d'années. Et puis, mais à peu près, on peut le résumer comme ça, pas mal d'années, en fait.
Ouais. Qu'on va retracer ensemble.
D'expériences, ouais, de mauvais moments, de moments plus agréables, et puis des moments de lâcher prise qui viennent avec sans doute quand même un peu le succès, je pense.
Mm-hmm. Eh oui.
Quand on ne sait pas si on n'est pas en train d'emmerder tout le monde, on est un peu raide comme un piquet, quoi. Mm-hmm. Je vois très bien ces concerts. Quand Alain Souchon venait de sortir La vie fait ce qu'elle veut, ça, il était vraiment, les gens avaient envie de le voir. Et moi-même, quand je vais voir un artiste et qu'on me met une première partie, ça peut m'agacer. Hein. Donc, voilà.
Ah, moi, je n'ai pas dit que j'étais agacée. J'ai remarqué le.
Non, mais moi, je n'ai pas dit que vous étiez agacée.
C'est-à-dire, on ne se comprend pas déjà. Déjà, on ne se comprend pas.
Ça ne va pas du tout.
Mais non. Vous venez de publier un double album, le disque bleu, deux parties, une partie résident, une partie visiteur. Un album que j'interprète comme un peu un bilan aujourd'hui, avec vos inspirations, vos références, vos grandes références, et aussi des références à vos précédentes chansons. On entend le cheminement, jusqu'à même un testament écrit en alexandrin. Et vous ouvrez votre concert acoustique avec le titre 15 octobre. Vous replongez en 93. Mmh. Je me suis dit, vous tendez le miroir au Benjamin Biolay qui a 20 ans, au jeune homme de 20 ans.
Ouais,
qu'est-ce qui s'est passé cette année-là et qui était ce Benjamin Biolay de 93 ?
Je devais être un peu plus romantique. J'avais plein de rêves, mais j'avais une espèce de conviction que je n'arriverais pas à les réaliser, alors que j'avais tort. Mais quand j'étais plus jeune, j'y croyais. Et les 20 ans, c'est un moment de coup de massue, je crois. Je ne sais pas pourquoi. Bah, ouais. C'était un peu dur. C'était un peu. J'avais arrêté la musique classique pour me lancer à corps perdu dans la chanson. Et il faut être patient. Et moi, je pensais que ça irait un peu vite. Mais pas du tout. Donc,
Et vous racontez ce jeune homme dans cette chanson ?
Oui, mais ses amours et son décor naturel qui était le quartier Saint-Just à Lyon. Et c'est un espèce de flashback. J'ai écrit cette chanson en Argentine, vraiment assez vite. Je ne savais pas trop pourquoi.
Hein. Pourtant, c'est l'époque à peu près où vous rencontrez Hubert Mounier, le leader de l'affaire Louis Trio, qui est votre mentor.
C'est exactement ça. Et
ouais.
Tout, ouais.
Donc c'est l'époque charnière pour vous.
Ah, c'est une époque transitoire et charnière, ouais, c'est sûr. Ouais.
Vous écrivez aussi cette chanson « Trois amis » qui figure sur l'album, qui raconte les trois de l'affaire Louis Trio, dont il n'en reste plus qu'un aujourd'hui.
Oui, pas seulement l'affaire Louis Trio, c'est un peu... Ouais. Il y a une allégorie aussi, mais oui, je parle de ça et je parle d'Hubert. Et c'est vrai qu'il n'en reste plus que Vincent, que j'embrasse et nous écoute. Et tout. Et c'est difficile. C'est vraiment un destin très particulier que celui de l'affaire Louis Trio. Le nom du groupe venait en fait d'un fait divers qui les concernait de très près, parce que le papa d'Hubert et Vincent avaient été assassinés dans un bar d'une balle perdue. Et pendant des années, ils avaient entendu parler de l'affaire du bar de la pêcherie, l'affaire du bar. Et quand ils ont monté le groupe, c'est venu assez spontanément de s'appeler l'affaire Louis Trio. Louis Trio. Ouais, ouais.
Et c'est une chanson narrative. Vous racontez une histoire. Vous faites allusion souvent à l'album Melody Nelson de Gainsbourg. Brassens raconte aussi des histoires, par exemple dans L'Orage. C'est dans cette tradition-là, cette chanson.
L'Orage. Ah, j'adore, ouais. L'Orage.
J'adore L'Orage. Ah, ouais.
Aussi. Enfin, j'en aime tellement de Brassens, ouais. Mais L'Orage, c'est une petite perfection parce que c'est un film, c'est drôle, c'est émouvant, c'est ironique, c'est...
Donc c'est bien cette tradition-là, la chanson narrative. Un peu.
La chanson narrative, bah oui, exactement celles qui sont faciles à retenir parce que vous voyez, il y a un scénario, il y a un début et une fin. Mm-hmm, ouais. J'ai pas chanté les trois amis sur scène parce que peut-être ça me ferait un peu trop d'effet à moi. Mais je sais que je l'ai répété et qu'elle est facile à retenir parce que enfin, je sais ce qui va s'y passer. Ouais. Les chansons les plus dures, c'est les chansons plus éthérées. Où finalement on n'a pas de chronologie enfin, ou de d'avancée narrative. Ouais.
Ouais. Bah, dès qu'il y a un refrain, il ne peut pas y avoir une avancée, c'est
alors
ça.
Dès qu'il y a un refrain, on met tout à zéro et c'est parfois difficile de se dire putain, quel est le couplet. Ouais, voilà.
Oui. Et Hubert Mounier, le leader de l'affaire Louis Trio, qui était dessinateur aussi.
Très grand dessinateur.
Ouais. Ouais. Vous avez gardé de cette rencontre avec lui aussi un goût de la bande dessinée.
J'adore la bande dessinée, mais j'étais nulos, quoi. Vraiment, c'était pas.
Il faut bien que vous ne soyez pas doué en un truc aussi.
Ouais, puis alors, parce que sinon, c'est énervant. Pas très doué, mais qu'on est entouré de génies parce que j'avais pas qu'Hubert, Kent aussi dessine super bien, machin, tous les gens. Ouais. J'ai un ami qui s'appelle Franck Le Gall qui a fait tous les Théodore Poussin et tout, qui a eu le prix à Angoulême et tout. Moi, j'étais entouré de gens comme ça qui sont tous qui se rêvent beaucoup musiciens. Donc, Hubert était leur dieu, bien sûr, parce que lui, il avait réussi dans les deux, bien sûr. Donc, j'étais entouré de très souvent des gens qui un peu m'idolâtraient alors que moi, je les idolâtrais parce que les gens de la bande dessinée, c'est vraiment un monde à part. Je les aime beaucoup.
Mm-hmm. Qu'est-ce que vous aimez en bande dessinée ? C'est un peu trop vaste pour dire j'aime ceci, cela ?
Non, j'aime ces gens-là. J'aime beaucoup de bande dessinée. Mais j'aime ces auteurs-là, j'aime leur solitude. Ils font encore Hollywood avec un bureau, quelques crayons. Et voilà, vraiment, c'est très, très analogique. Ouais.
Donc on est dans cette période, on va avancer de quelques années. Je suis retombée sur, intriguée par le titre, sur votre premier 45 tours, en 97.
Vous êtes tombée par hasard sur mon premier 45 tours qui n'existe plus.
Ouais,
ah ouais.
Ben bien sûr. Alors je l'ai pas physiquement dans les mains, mais j'ai vu le clip. Donc j'ai entendu la chanson. Ben ça m'intriguait parce que ça s'appelle La Révolution et c'est votre, quand même. Ça s'appelle La Révolution. C'est votre premier titre. Vous avez la vingtaine et vous avez les cheveux longs, un catogan. Vous avez un bouc. Les paroles m'ont frappée. Vous dites les premières paroles, c'est la radio a dit ce matin que tout allait bien.
La Révolution est annulée jusqu'à demain.
Ouais,
je crois.
Ouais. C'est ça. Et vous vous rappelez de la suite ou pas?
Quand même pas, non.
Ah ben moi, je l'ai noté parce que ça dit « Le ciel est bleu ciel et les avions volent enfin ».
Oui, ben, y a plus de grève, tout ça. Ouais, c'était à l'époque où je pensais qu'il fallait tout coder comme John Lennon. Il fallait rien dire et tout dire en même temps.
Mais c'est quoi c'est Radio Londres, ça, ou quoi?
C'est Radio Paris-Mont, en fait. Quoi.
Ah ouais.
C'était un peu un truc que j'ai écrit quand j'avais 18 ans, je pensais tout, mais c'était des slogans enchevêtrés... Je décidais parfois de n'avoir rien à foutre des textes sur certaines chansons, comme peuvent le faire les anglo-saxons. J'écrivais déjà des trucs plus raffinés et tout, mais sur les chansons que je voulais un peu pop et tout, je pensais que le message du texte était inintéressant, en fait.
Donc, là, on se pose la question de la naissance de votre conscience politique.
Oh, c'est bien avant. Hein.
C'est bien avant. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on parlait politique à la maison?
Alors oui, un peu quand même, parce que mon père travaillait à l'AMNEF, et il n'était pas cadre, il était agent de maîtrise, et il a vécu l'affaire de l'AMNEF, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était la bande un peu de Spitakis, de Strauss-Kahn, etc., qui avait détourné, c'était un peu la pouponnière du PS, comme on disait, et mon père a perdu son emploi, s'est retrouvé dans une situation très très compliquée.
Ah, à cause de cette affaire?
À cause de cette affaire, alors que lui-même était un militant socialiste quand il était jeune, donc ça a été une remise en question assez dure et tout.
Ah oui.
Et puis même, moi, j'étais intéressé, parce que ma conscience à la politique, elle doit être du 8 mai 81, parce que moi, je suis arrivé à l'école tout content, et tout le monde m'a dit, qu'est-ce que tu dis, et tout, c'est horrible, il y a mes trans, et tout. Moi, je me suis dit, ah merde, et tout, je suis dans une école où les gens ne pensent pas du tout comme mes parents. Ouais, j'ai le souvenir de cet énorme clivage. Quand j'étais petit, j'allais arracher les affiches de Raymond Barre, moi, voilà. Toujours, là, ouais, j'ai des souvenirs. Ouais, ouais.
Est-il vrai que vous avez été encarté à 16 ans?
Ouais, ouais, bien sûr. Ouais.
Ah ouais. Mais vous l'aviez décidé, vous?
Ah ouais, carrément, j'étais déjà parti de chez mes parents à 16 ans, de toute façon. Et, oui, et puis... on était jeunes et très très militants et c'était une autre époque où, par exemple, oui, je pensais à la séquence actuelle, parce qu'avec Hubert Mounier, je peux le dire, il n'est plus là, mais même s'il n'est plus là, il vous le confirmerait, le soir d'élection de Jacques Chirac, il était dans un quartier assez chic à Lyon, on était tellement vénère qu'on a jeté des œufs sur les gens toute la soirée, voilà. C'est voilà. Et des maintenant, quand j'y pense, ouais. Je me dis, c'est juste Jacques Chirac, et on était dans cet état-là, quoi. On jetait des œufs sur les gens, ils leur passent, on les agressait
non,
pas,
non,
mais voilà.
C'est donc bien une tradition française,
on
cette
histoire. On était allé dans une épicerie qui s'appelle Chez Maréchal, on était allé acheter une boîte de 64 œufs, je pense, parce qu'on savait qu'il allait y avoir une parade, des gens du quartier d'Aisnel, à très à droite, et avec Hubert, on attendait et on les bombardait, quoi, voilà.
Ah, très bien.
Voilà.
France Inter, Bistroscopie, Charline Vanhoenacker.
Benjamin
Biolay. C'était que Jacques Chirac.
Mais ouais.
C'est dingue quand on y pense.
Ça,
c'est fou.
Oui,
là.
C'est
on appelle ça la fenêtre d'Overton. De toute façon, ouais. Ça a un nom.
Voilà, c'est la fenêtre d'Overton. Vous avez grandi dans un milieu ouvrier. Vous pouvez décrire.
Ouais. Employé de bureau, ouais. Ouvrier. Ouais, mm-hmm. Ma maman ouvrière, ouais. Mon père agent de maîtrise. Enfin,
c'est-à-dire, il y a une culture ouvrière chez vous.
Ouais.
Ouais. Qui se traduit comment à cette époque-là? C'est quoi la culture ouvrière?
Il y a un certain penchant. Les gens font beaucoup d'enfants dans ma famille à cette époque-là, quoi, et travaillent dur parce que personne n'a son bac. Ma mère, elle a 13 frères et sœurs, il n'y en a qu'une qui a eu son bac, c'est la toute dernière, par exemple. Voyez. Et elles sont toutes, c'est beaucoup de filles à aller travailler à l'usine à 14 ans, quoi. Dans une usine, ça s'appelait chez Favreau, à Villefranche-sur-Saône, donc tout le monde allait chez Favreau, quoi.
Ouais. Donc milieu ouvrier. Vous auriez pu vous lancer en politique, vous, Benjamin Biolay?
Ah, j'aurais pu, j'aurais aimé, oui, je ne sais pas si j'aurais pu, ouais. Mais ça aurait pu m'intéresser, oui. Mm-hmm.
Et puis, vous êtes descendant de la famille Opinel, c'est,
ouais,
c'est juste?
Oui, c'est le grand drame aussi.
Oui, c'est-à-dire, mais normalement, quand on descend de Opinel, on vient d'une famille riche, normalement. Qu'est-ce
qui
s'est passé?
Parce que quand mon grand-père a fait scission avec son père, et ça, là, c'était pas encore une famille très riche, c'était encore, il n'a pas eu beaucoup d'instinct. Et il y a une grave. Il est même photoshopé sur certaines photos au musée Opinel, mon grand-père.
Voilà, ouais.
Donc,
ouais,
c'est pas bon. Okay.
Donc, ah ouais, il y a une.
Et s'est barré, il a voulu créer sa coutellerie. Ses frères l'ont empêché en déposant le logo, la main couronnée, enfin le packshot. Parce que lui, il s'appelait Opinel, parce qu'il dit je vais faire des Opinel. Ouais. Parce que dans toute la famille, il savait faire des couteaux, c'était vraiment des couteliers de Savoie, quoi. Et il a voulu leur faire à l'envers, et ça lui est vraiment... J'ai eu un acte de vente terrible où il vend tout son stock pour un franc, je pense, à ses frères.
Et donc la destinée
et
aurait pu
coup,
changer.
Et du coup, il a fini employé dans un garage avec 14 enfants, donc il est vraiment à l'opposé de... Et donc, il y avait une certaine rancœur de classe, qui est normale, je trouve, dans un cas comme ça.
Ah oui, vous l'avez eu des classes, vous l'avez connu un peu dans la famille, quoi. Grosso modo.
Ça va, c'était pas une obsession non plus.
Et vous avez pas acheté des œufs à Noël?
Non, puis, vous savez, on était... Voilà, c'était pas notre décision et tout, mais... Quand parfois la famille savoyarde, milliardaire, envoyait un couteau à Noël, les gens étaient contents quand même, étaient touchés quand même. Voilà. Mmh. Mes parents, ils ont un Opinel d'1m80, quoi, par exemple.
Ouais. En déco, comme ça.
Ouais, je sais pas. Non, qu'on leur a offert peut-être pour leurs 40 ans de mariage, je sais pas quoi, la famille. Ouais.
Bon, il y a eu scission dans la famille des couteaux, ok, très bien. Ouais. Et vous avez aussi un grand-père résistant.
Très grand résistant.
Ouais. Ouais.
Mais
Henri
l'autre
Biolay.
Aussi, hein, il était pas. Ouais. Dans la région lyonnaise. Hein, pour...
Il avait un nom de code?
Je sais pas, il faudrait que j'ai le dossier. Ouais, bien sûr, je crois que c'était Bouclette, mais je suis pas sûr. Il a fondé, ils sont neuf à avoir fondé le réseau Jade Fitzroy, en fait, qui est un des premiers réseaux de résistance intérieure qui rendait compte déjà au général de Gaulle à Londres et tout, quoi. J'ai eu son dossier, parce que moi j'avais des doutes, comme je suis pas sûr, et puis tout le monde a un grand-père résistant dans ce pays. Donc j'ai une amie qui m'a dit, qui est historienne, qui m'a dit je peux avoir tous les dossiers. Elle m'a dit non, mais c'est du sérieux.
Il y avait peut-être des recherches à faire.
Non, je les ai faites, j'ai vu que c'était le seul qui n'était pas devenu préfet, ministre, je sais pas quoi. Et je suis assez fier qu'il ait ouvert un bar après, qu'il soit passé à autre chose, en fait. Voilà.
Ok. Résultat, vous écrivez dans Mon pays, qui est un titre de ce double album, Le Disque Bleu. Tiens-toi sage, mon vieux pays, avant la nuit des algues brunes. Et puis vous écrivez la mer de 1000 ans et demi, que ne rougisse l'encolie. Je me suis dit, là, il y a aussi encore des choses un peu
codées.
C'est codé, c'est la poésie.
Dans ce cas-là, la poésie, c'est un filtre parfait pour dire ce qu'on pense, tout en ayant l'impression d'émettre des prophéties un peu éclairées.
L'encolie, c'est une fleur.
C'est une fleur, oui, bien sûr.
C'est votre fleur préférée? Elle a une symbolique ou pas?
Non, c'est à cause de Colette que un jour, je lisais un roman de Colette, et toutes les trois phrases, j'étais obligé de prendre mon dictionnaire, parce qu'elle décrit les végétaux comme personne, elle doit avoir un diplôme. J'étais là, mais putain, mais... Et du coup, à chaque fois, je tapais sur Google pour voir... Et l'encolie, j'ai trouvé ça magnifique. Et comme le mot et le...
Oui.
Et voilà, et c'est revenu quand j'ai écrit.
C'est même parce que ça vous va bien, parce qu'il y a mélancolie dedans.
Mais c'est quand même une rime en i aussi.
Oui, ouais. Je vois, d'accord, très très bien. Ah ben, je l'ai appris grâce à vous, l'encolie, donc très très jolie. Et lors du concert acoustique, vous chantez cette chanson. Si je me souviens bien, il y a une archive sonore. Parce que là, on venait d'évoquer voilà, les grands-pères résistants, etc. Cette archive sonore, c'est laquelle ?
C'est André Malraux qui c'est le discours d'intronisation de Jean Moulin au Panthéon. Ouais.
Ah, mais je n'ai pas reconnu. Parce que ce n'est pas le entre ici.
C'est à la toute fin.
C'est à la toute fin.
Mais je ne voulais pas que ça prenne non plus. C'est son de voix qui est merveilleux. Et ce français, cette façon de dire les choses qui pourrait paraître ampoulé et théâtral, c'est la dernière trace de la grande tradition oratoire des Français, et c'est le prédécesseur de Rachida Dati, vous voyez, c'est impressionnant.
En effet. Toujours dans la poésie, sur l'album, vous chantez « Hola guitare », qui est un poème d'Aragon, qui parle de guitare et d'amour, c'est quand même un poète engagé.
En plus, ce poème, je l'ai lu tout de suite, parce qu'il s'appelle « Oda Pablo Neruda », donc je pensais qu'il y aurait quelque chose de plus politique dedans. Eh ben non, la guitare. Et j'ai trouvé ça très très beau.
Très, très
parce
joli,
que, ouais, mais la guitare, comme il la raconte, c'est aussi très bien connaître l'Amérique latine, quoi. Ils ont toujours une guitare à la main, les gens.
Et en Amérique latine, la poésie des textes, elle vous inspire aussi ? Vous allez plus chercher la musique ? C'est quoi la...
Ils sont inspirés de notre grande école française aussi. Par exemple, à Atahualpa, Yupanqui, là, qui a un peu le Brassens argentin, était fanatique de Paris, de Piaf, de machin, de trucs. Donc, et même dans le tango, il y a beaucoup de mots français dans le tango très codé, dont j'ai oublié le nom, là. Il y a beaucoup de mots empruntés aux Français pour pas que les Condés comprennent à l'époque, quoi, pour pas que la police comprenne les textes. Quoi.
La police, elle pige vos textes ou pas avec tous vos messages codés ?
Faudrait leur demander. Hein,
Parce que, attention, parce que le ministre de l'Intérieur a la main lourde en ce moment sur les plaintes. Hein.
Oh, c'est lequel en ce moment ?
Nunez, il s'appelle.
L'ancien préfet de police de Marseille aussi, ouais.
Ouais, il aime bien, il porte plainte régulièrement, c'est un job à full-time.
Alors
job.
C'est intéressant parce que effectivement, si je fais une chanson dans laquelle je lance un appel aux policiers, je ne sais pas comment on dit, c'est normal que le ministre de l'Intérieur porte plainte. La blague de Pierre-Emmanuel
Barré. La blague ou le jeu de société, il y a un jeu de société
qui s'appelle... Je n'ai pas encore tout lu là-dessus,
voilà, mais, là, ça va trop vite,
mais pas pour une blague, pas pour une blague. Ah,
c'est clair. Donc le titre qui ouvre le double album Le Disque Bleu et qui court en ce moment sur la playlist France Inter, c'est Le Penseur. Alors écoutez-le tranquillement, imaginez le ciel bleu, la mer, et tant qu'il y aura des bistrots.
Et Laurent Nunez en string. Avec son petit ouinge là.
Se débride, puis boit la gourde à moitié vide. Le ciel et l'eau se font détresse. Ils s'emparent d'une lame invisible, puis solennellement désigne le port où s'alignent les grues. Là où jadis il a vécu une forme de bonheur indicible, avec sa femme, son chien, ses filles. Il se dit je suis encore chaud, j'aime bien mourir maintenant trop peu. Les grands oiseaux indociles. en forme de signe ou de détresse. Il rêve des berges du Tibre, du Nil, humant la fumée d'une de Nil. Il reste au loin quelques collines allongées dans la brume épaisse. Avant ici avait des chenilles, des grands bourgeois d'une grande ville. Le confluent, le pauvre et nu, et le jardin montre son cul. Le déclin était prévisible, l'humanité si peu sensible. Mais tant qu'il y aura des bistrots, je veux bien mourir, Manon. Trop bon, et puis au cas où, je dis bien au cas où, il y aurait rien là-haut. Pourrais-je emmener mon bateau? Et puis au cas où, je dis bien au cas où, il n'y aurait rien là-haut. Pourrais-je emmener les poteaux?
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
C'est un titre issu d'un disque bleu, conçu pour qu'on puisse l'écouter en faisant la sieste.
Ah ouais, c'est bien aussi. Ouais.
C'est pas mal ça. C'est un disque doux, un double album très doux dans un monde assez brutal.
Ça fait de moi monsieur tout le monde presque, parce que c'est un des penchants de tous les auteurs. Quoi. Plus le monde est brutal, plus ils sont poétiques. C'est tous les grands dramaturge ou poète à qui on a dit, je me compare pas à eux, hein, mais je dis, à qui on a dit, c'est pas trop dur d'écrire de la poésie dans un monde aussi. D'ailleurs, on a tous répondu, bah non, au contraire, c'est vraiment le seul échappatoire possible pour les gens comme ça, quoi, qui sont pas des moldus, quoi. Mais,
ouais. Vous avez connu le péril fasciste, on peut dire, et xénophobe avant tout le monde en Argentine avec Milei. On parle des artistes.
Big time. Ouais, après, moi, j'arrête d'en parler parce que je veux pas dormir de là-bas et les médias de Bolloré et tout. Chaque fois que je parle de ça, ils déforment mes propos et ça. Ouais. Après, il y a des sites pro-Milei, machin, qui me.
Ouais.
Enfin bon, bref.
Ici, l'émission est pas filmée, donc ça risque pas.
Oui, certes, mais bon, moi, j'ai une famille là-bas, j'ai une fille et tout, parce qu'elle est pro. La dernière fois qu'il y allait, c'était un jubilé de Maradona, donc. Voilà, faut.
Ah ouais. Non, ma question.
Du coup, non, mais voilà, ouais. Voilà, je me censure sur un sujet.
Ouais,
voilà.
Je comprends. Pour vous protéger.
Pour protéger ma famille.
C'est tout à fait légitime, c'est clair. Non, mais ma question concernait plus. Vous venez de parler des artistes qui, justement, proposent presque cet antidote pour nous, mais qu'il est un refuge pour eux. La contre-culture, elle se développe davantage.
La preuve, il y a un groupe qui est en train de marcher mondialement qui s'appelle Catriel et Paco Amoroso, qui sont deux musiciens de Buenos Aires. Mmh. Et qui chante des choses assez surréalistes, assez marrantes, assez hors du monde, ou alors assez auto-centrées, comme peut le faire un peu Orelsan et tout, et c'est en train d'exploser. Les gens ont besoin d'un truc comme ça. Ouais, le punk là-bas, la scène de rock national est née pendant la dictature de Rafael Videla. Vraiment, ce qu'on appelle le rock national, qui est le sang de l'Argentine maintenant, c'est une poignée d'artistes qui sont tellement importants que c'est difficile à décrire. Vient de la dictature. Et là, en ce moment, est en train de se développer une scène qui est très impressionnante.
Ah oui. Et donc, est-ce que le public va aussi rechercher...
Qui ne parle pas de politique.
Qui ne parle pas de politique. Ouais. Est-ce que les gens là-bas aussi vont chercher justement ce rock dont vous parlez de l'époque de la dictature pour le réécouter et
revival, effectivement, et tout. Et il y a un des chanteurs qui est encore vivant qui s'appelle Charlie Garcia, qui est considéré comme Dieu, quoi. Là, c'était son anniversaire. Le pays s'arrête de vivre pour l'anniversaire de Charlie. C'est un truc, voilà.
Vous avez appelé à la libération de Christophe Glaze.
Très sérieusement, oui, ouais. Quand même.
Bah ouais, putain, ouais. Dont on a appris cette semaine.
Ce matin, le silence est étourdissant, hein, quand même, quoi.
À ce sujet,
deux poids, deux mesures, ouais. Parce que l'écrivain dont j'avais jamais entendu parler de ma vie, là, qui est devenu une l'égérie de beaucoup de gens et qui, Dieu merci, est sorti déjà la
journée.
Voilà. Tu dis Christophe Glaise, moi je l'avais lu très souvent, c'est un grand journaliste, SoFoot, ouais. C'est un vrai...
Passionné de foot,
ouais, qui mais si vous voulez connaître un pays, lisez SoFoot et surtout les pages internationales, c'est hyper intéressant la sociologie du foot. Mmh. Et ce type, parce qu'il a interviewé un président de club qui n'est pas bienvenu là-bas et tout se retrouve dans les jeux algériennes. Et il faut se bouger au moins autant que pour l'écrivain sans salle, là, c'est sûr.
Bien sûr. Donc, il vient d'être condamné en appel à 7 ans de prison. Cette semaine, sur France Inter, il y a son frère disait que c'était un levier pour essayer de conscientiser, de le faire libérer.
Il y a un levier, oui. C'est
Lionel, le foot, c'est le levier.
Non, pas le foot. C'est le pouvoir. Donc, si vous...
Non, mais le foot, c'est non, du pouvoir. Si les Zidane et compagnie prennent la parole.
Voilà, il y a un homme, Zidane. Ouais. C'est, si Lionel Messi dit. Voilà.
Ouais,
mais c'est pas au foot, on veut plus que la parole politique pénalise la diplomatie française, comme c'est arrivé par le passé. Même M. Sansal, il l'a reconnu, que l'ancien ministre de l'Intérieur, dont je dirais pas le nom, avait été un obstacle à sa libération avec ses provocations permanentes et tout. Donc il faut que le politique fasse son travail, c'est pas Lionel Messi de...
Non, mais comme moyen de pression.
Mais non, on en est là, en fait, c'est ça. Ouais. Donc si on connaît personne, il n'y aura jamais personne pour vous libérer. Si on est un inconnu et que personne ne se mobilise, donc on va vous laisser pourrir alors que vous êtes un ressortissant étranger, ben non, non, c'est pas possible.
Bon, c'est ma grande naïveté, ça, Benjamin Biolay.
Ah, elle est célèbre, elle est célèbre. Et puis on voit où ça vous amène. Ouais.
Au bistrot avec vous, c'est déjà pas mal.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie. Sur France Inter.
Benjamin Biolay, donc on l'a dit, vous grandissez à Villefranche-sur-Saône, éducation assez stricte. Hein. En plus, toute la famille vit dans le quartier, si j'ai bien compris. Vous alliez chercher où un peu de, je sais pas, de douceur et de divertissement et, ça, c'était quoi l'adolescence de Benjamin Biolay avec...
Je me suis barré avant l'adolescence. Enfin, je me suis barré
à 15 ans.
Au début de l'adolescence.
L'enfance, voilà. Ouais, ouais. Votre chambre d'enfant, c'est comment? Il y a des posters,
Je suis toujours dans une chambre d'une de mes sœurs. Je suis passé de la grande à la petite. Donc, c'était plus un monde intérieur. C'est peut-être ça qui m'a aidé à faire des chansons aussi. Hein.
Et fan de foot, mais il a fallu négocier pour jouer au foot.
Il fallait jouer du violon pour...
Il y avait un violon dans la famille déjà?
Non, mais ça, c'est une envie de monter l'ascenseur social. Les gens qui connaissent la sociologie des écoles de musique vous le diront, c'est normalement les violonistes viennent d'un milieu très aisé. Moi, je venais d'un milieu cuivre. Et donc, l'envie de mes parents, c'était de me faire passer à travers le violon un cap.
C'était le code bourgeois, en fait.
Bah oui, je comprends les parents qui ont envie que leurs enfants fréquentent les gens du milieu du violon. Ouais. Les parents de mes amis qui faisaient du violon, ils étaient radiologues, machin et tout. Vous voyez, c'est très différent.
Ouais, je vois bien. 15 ans, donc vous partez pour la grande ville à Lyon. Avant ça, vous avez joué dans les fanfares. Hein. Vous faites du cul.
Des orchestres symphoniques, des fanfares. Souvent, on pense que c'est la fanfouille, que c'est péjoratif. Donc, non, j'ai joué dans des orchestres d'harmonie, des fanfares, des orchestres symphoniques.
Bien sûr. Je serais incapable de jouer dans une fanfare, moi, déjà.
Donc, vous ne pouvez pas savoir, vous n'avez pas essayé.
C'est vrai, mais je ne suis pas douée. Moi, je n'ai pas l'oreille absolue comme vous. J'ai fait 10 ans de piano, je peux pas vous me remettre
si
un
clavier. Si tout le monde dans les fanfares avait l'oreille absolue, ça serait...
C'est vrai. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est l'oreille absolue? Vous pouvez
c'est
définir ce que
c'est? Pouvoir identifier la note, mais elle est variable, ça dépend de...
Ça, c'était quoi? Vous avez fait quoi, là?
Je ne sais pas, genre de do.
C'est un do, ça?
Non, même pas sûr. Ça ressemble à un la. Enfin, après, moi, j'entends ce que je veux bien entendre. Hein.
Oui, mais d'accord, je vois très bien.
Ça, c'est un do.
Ça a été brutal de quitter...
Donc, du coup, ça, c'est un mi.
Ok. Voilà. Vous pouvez faire un bémol ou pas?
Il faudrait... Non, en fait, je connais pas le principe, mais je pense que plus on met de l'eau, plus la note monte. Je sais pas.
Putain, il est incollable, c'est un truc de fou. Ouais. Donc là, vous avez 15 ans, vous quittez Villefranche-sur-Saône pour étudier la musique à Lyon, le trombone à coulisses. Ça a été brutal d'arriver dans la grande ville de Lyon à 15 ans?
Non, c'était super chouette.
Ouais.
C'est comme le sport. Si vous arrivez d'une petite ville pour jouer dans un grand club, dans une grande ville, mais que vous êtes un très bon joueur, vous allez être hyper bien reçu, en fait. Donc, moi, j'étais très focus sur mon milieu de la musique classique. Donc, ça s'est bien passé parce que j'étais super content d'être là et j'étais bien reçu, comme je jouais bien. Donc,
et sur scène, lors de cette tournée acoustique, vous allez tourner, là vous avez fait déjà plusieurs dates, notamment à Marigny, où je suis venue vous voir, mais vous reprenez en janvier. Il y a plusieurs dates complètes, donc je vais donner des dates où c'est pas complet. Par exemple, le 4 février à Biarritz, vous aurez une chance le 11 février à Annecy, ensuite à Poissy, vous passez aussi pas mal par la Belgique, le nord de la France, il y a des dates un peu partout, je vous encourage à aller voir ce concert acoustique. Vous reprenez le trombone.
Ouais, ça.
Ça, pendant un moment, vous l'aviez laissé tomber.
Ouais,
quand même.
Donc c'est encore un peu dur, mais bon, je vais m'accrocher. Ouais. Mmh.
Vous rechantez Jardin d'hiver. Et là, j'ai découvert deux histoires qui m'ont un peu intriguée. J'avais pas pigé qu'à cette époque, vous étiez à Bruxelles. Vous bossiez comme un fou dans un studio. Et ce tube que vous avez coécrit et qui fait renaître artistiquement Henri Salvador, vous dites vous êtes un peu passé à côté de cette espèce de vague comme ça. Je me suis dit, mais quand même, il est à Bruxelles, on a la radio et la télé à Bruxelles.
Non, j'étais à l'ICP, vous connaissez ce studio peut-être, c'est à Excel et tout. Donc j'étais enfermé à ICP, j'étais en train de travailler sur deux de mes disques. Parce que je faisais le disque de ma sœur, le mien, et bref, c'est compliqué. Ouais. Et ben non, j'ai rien vu, c'est...
Ok, donc après vous sortez du studio et vous découvrez la folie du phénomène, quoi.
Ouais, je connaissais le classement. Je me disais, putain, Henri, il est numéro 2. Parce qu'il n'était pas rentré numéro 1, ce disque. Il était rentré 2, mais il était resté 2. Je disais, c'est dingue et tout. Je disais, ça doit faire au moins 100 000. Et il me disait, non, c'est 480. Et oui, c'était un truc assez fou. Et puis, il était tellement heureux de refaire son métier qu'il était partout et tout. Et je l'ai joué. Il avait une énergie à son âge qui était incroyable, quand même.
Et donc, vous rechantez cette chanson. Dites-moi, le jardin d'hiver. En fait, là où vous avez en partie écrit le texte.
Ah bah oui, à part Fred Astaire, j'ai écrit le texte, ouais.
C'est vraiment en face de la gare du Nord.
C'est le Terminus Nord.
Attendez, j'étais kécho. Parce que vraiment, le Terminus Nord, cette brasserie, c'est moi quand je rate mon train pour Bruxelles.
Ouais.
Et donc le jardin d'hiver...
C'était... Il y avait un autre texte, c'était éclaté, je suis allé faire un tour et...
Et voilà.
Ça m'est pas arrivé souvent, hein, d'être en page blanche comme ça, et de lever les yeux, et dire, ah bah tiens, c'est comme...
Ce qu'il faut voir, si vous avez l'orgueil. Allez au Terminus Nord et imaginez-vous le jardin d'hiver.
J'avais la mélodie qu'on avait fait avec Renan en tête, et mais j'avais pas de guitare, donc je pouvais pas chanter même. Donc je me suis mis à écrire ça en me disant, ça se trouve, ça sonne pas, quoi. Et en fait, ça sonnait trop bien, c'est vraiment...
Ouais. Tant qu'on est dans le secret de la fabrication des chansons, Brand Rhapsody, coécrit avec Jeanne Chéral et chanté aussi sur l'album La Superbe. Est-ce qu'on peut dire que vous avez coécrit comme un cadavre exquis de post-it ?
Ouais, c'est vrai. C'est
Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots le fonctionnement ? Parce que c'est génial, vous pouvez le faire chez vous. Hein.
Je lui ai dit, viens, j'ai fait un son tout simple et on va faire l'histoire d'un couple. Mais je ne lui ai pas dit qu'il se sépare ou qu'il a fait des enfants et tout. Je lui ai dit l'histoire d'un couple sur plusieurs années à travers les post-it qui se laissent sur le frigo. Et on se fait un truc qui peut durer 8 mesures précisément, c'est-à-dire mettons 20 secondes. Et tu chantes 8 mesures, tu laisses passer 8 mesures, tu chantes, etc., tes post-it, et moi je fais pareil, mais je mets pas ta voix, tu mets pas ma voix. Et donc, moi j'ai chanté mes trucs, elle a chanté ses trucs, et quand on a ouvert les deux pistes, c'était ça, hein, c'était incroyable. Et on avait bu beaucoup de champagne, donc on trouvait ça incroyable et rigolo, et c'est quand j'ai vu l'ingénieur du son qui pleurait que je me suis dit, putain, je crois que ça l'a fendu en deux, la fin, je me rappellerai toute ma vie. La fin, là, voilà. C'est mon quand il l'a écouté, là, il s'est mis à pleurer.
Ouais, cette chanson, elle est
après,
un peu culte.
Après, il m'a dit, je vis un truc horrible et tout, mais le truc qui nous paraissait ludique.
Oui, c'est ça, avec les post-it et le champagne.
Ouais, puis des moments, il y a un peu d'humour dans la chanson quand même et tout. Il y a quand même des trucs typiques de Jeanne et typiques de moi, quoi. Donc, mais non, comme c'était des choses qu'on avait vécues quand même, elle et moi, on avait dû quand même mettre un peu de...
De
graisse là-dedans.
L'humour, il y a un titre notamment, alors moi qui adore faire des chroniques politiques, évidemment, Justine Partout, Pauline Nulpart, qui est très codée, qui est presque une satire politique, très poétique, c'est canon. Vous, l'humour, c'est de l'inné, c'est de l'acquis, on rigolait à la maison, vous avez beaucoup d'humour.
Alors dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'humour, et particulièrement la branche tétoise,
Donc ça va naître.
Ouais, énormément. Et j'ai été marié à Chiara, que je vois toujours autant, et c'est un sniper. Donc il faut être.
Je vous conseille de réécouter le Bistroscopie. Je pense que ça doit être la seule personne qui m'a séché, en fait.
Ah ouais, quand elle est en forme, c'est insoutenable.
Elle est très, très, très forte.
Il faut être capable. Les gens ne le savent pas, mais c'est un des plus gros snipers de l'humanité.
Bon, Benjamin Biolay, je vais aller vous revoir parce que vous tournez pas mal en Belgique aussi avec ce concert acoustique.
Vous avez le droit de rentrer dans votre pays, vous ?
Ouais. Bah, bientôt.
Ouais, ça va se calmer. Hein.
Bientôt, ça, je vais y rester peut-être. Hein, c'est vrai. Benjamin Biolay, le disque bleu, cette tournée acoustique.
Et il y a un peu de Bruxelles encore dans ce disque bleu.
Ouais, bien sûr.
De ICP, ouais. C'est l'endroit au monde où j'ai passé professionnellement le plus de temps, en fait.
Ouais. Oui, oui, disque aussi enregistré au Brésil, en Argentine, à Sète, à Paris et à Bruxelles, bien sûr. Et voilà, je vous recommande chaleureusement aussi. Donc cette tournée, Benjamin Biolay, on est samedi soir, là, il va être 20h. Où est-ce que vous pourriez m'emmener pour continuer à boire des coups?
Ah, c'est mon copain qui est restaurant argentin, là, qui s'appelle Volver.
Ah ouais, comme votre album.
Ouais, exactement. Mm. Et, mais c'est moi qui ai rendu hommage au restaurant et à la chanson de Carlos Gardel. Mais, ouais. Et où c'est vraiment un endroit délicieux, mais il faut aimer la viande.
Ah bah oui, il faut aimer la viande grillée, là. C'est l'Argentine, c'est la barbaque.
Ouais, ouais, c'est pas du Waterzoy, désolé.
Bah,
ouais.
Ça me va.
Je me disais, si un jour un Argentin voit Waterzoy, il va péter les plombs. Quoi. C'est, déjà, tu leur montres un bœuf bourguignon, pour eux, c'est une scène de crime.
Bah, on lui servira un stoump saucisse.
Stoump, ouais.
Ah,
j'adore.
Ah, vous dites, oh, stoump en plus.
Ah, et puis,
vous êtes belge.
Mais à fond.
Mais évidemment, vous êtes belge. Merci, Benjamin Biolay.
Merci beaucoup.
Ainsi s'achève Bistroscopie, dont vous pouvez écouter les précédents épisodes sur l'application Radio France, dont celui avec Chiara Mastroianni. Merci beaucoup à Lisiane Larbani, attachée de production, Ophélie Vivier, chargée de programme, Virginie Lorda à la technique, François Audouin à la réalisation, Thomas Allard au mixage et Karine Aubertuig à la documentation. Je vous retrouve samedi prochain à 19h20 avec Benoît Delépine.